Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. La Banque africaine de développement se cherche un nouveau président. L'élection a lieu cette semaine à l'occasion des assemblées générales de la BAD, qui sont les candidats et surtout leur chance de remplacer le Nigérian Akinwumi Adesina. Mais surtout, quel est le bilan de ce dernier à l'issue de ses deux mandats à la tête de l'institution financière panafricaine? Vous aurez toutes les réponses dans quelques minutes. Ce sera avec l'analyse de Idriss Lindje, directeur des rédactions de Media Mania. Mais avant cela, dans le Zoom Express, nous allons parler de think tank et de cabinet de conseil en Afrique. Pourquoi il est important pour les pays du continent d'en disposer et comment peuvent-ils influencer positivement les politiques publiques en Afrique? Nous abordons largement le sujet et ce sera dans quelques instants. Tels sont les principaux sujets de notre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Mais avant cela, notez que la Confédération marocaine des exportateurs, l'ASMEX, prévoit de mener une mission économique de haut niveau en Angola. Cette mission est prévue du 18 au 21 juin prochain. Selon l'ASMEX, elle s'inscrit dans la dynamique de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZELECAF. La Confédération marocaine précise que cette initiative ambition de renforcer les accords bilatéraux entre le Maroc et l'Angola. L'Angola, dont l'économie connaît une dynamique de diversification et qui joue un rôle clé au sein de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, l'Angola est considérée comme un partenaire stratégique potentiel pour le Maroc dans cette sous-région du continent.
Zoom Express.
Je vous le disais en titre, nous allons parler de think tank et de cabinet de conseil en Afrique, car il faut reconnaître que le narratif sur l'Afrique est souvent conçu en dehors du continent. Il est donc important pour les pays donc africains d'en disposer. Et comment justement ces think tanks et cabinets de conseil peuvent-ils influencer positivement les politiques publiques en Afrique? Nous abordons ce sujet dans Coémergence et c'est avec Kamal Akridis. Il est fondateur et président du ROC. Par ROC, il faut comprendre Research, Observation and Critical Knowledge, un think tank basé à Paris avec une présence active en Afrique. Bonjour à vous, Kamal Akridis, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous. Et vraiment, je vous remercie de m'avoir invité.
C'est un plaisir et un honneur également. Le plaisir et l'honneur de retrouver, comme chaque semaine, Mustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique et de la plateforme Best Afrique qui connecte la diaspora africaine et les diasporas du monde. Bonjour à vous, Mustapha El Bouri.
Omar, bonjour.
Alors, avec vous deux, nous allons donc parler de ces think tanks. Alors, je vais commencer d'abord par Kamal Akridis. Présentez-nous d'abord. Le ROC, je le rappelle, c'est un think tank, Research, Observation and Critical Knowledge.
Merci. Alors, déjà, je commence par une petite introduction. Je m'appelle Kamal Akridis. Je suis expert en intelligence économique et stratégie d'influence, diplômé de l'École de guerre économique Paris et l'EDEC Business School. Donc, je suis le président, comme vous avez dit, de ROC Institute. C'est un think tank indépendant qui opère entre l'Afrique et l'Europe et qui travaille aux côtés des institutions publiques, des entreprises stratégiques et des organisations internationales. Notre objectif est clair, c'est renforcer la souveraineté stratégique africaine en développant nos propres capacités d'analyse, de décision et d'anticipation.
Donc, je pense que c'est une belle donc, entrée pour parler de ces think tanks. Alors, cela dit, pourquoi aujourd'hui il est essentiel, selon vous, que l'Afrique développe ses propres think tanks et cabinets de conseil stratégique au lieu de dépendre de structures étrangères?
C'est vraiment une très bonne question, parce que un continent qui n'a pas de capacité autonome de réflexion stratégique est condamné à exécuter les stratégies des autres. Voilà. Donc, trop souvent, l'Afrique se traite ses publics, ses politiques publiques, ses plans de développement ou ses réformes à des cabines étrangères qui n'intègrent ni les réalités sociales, ni les dynamiques culturelles, ni les enjeux géopolitiques du continent. Donc, créer nos propres think tanks, c'est bâtir ce qu'on appelle en intelligence économique une souveraineté cognitive, c'est-à-dire la capacité à produire une lecture autonome de notre environnement, de nos ressources et de notre vulnérabilité.
Je me tourne vers Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, qui, je le rappelle, connecte les investisseurs de la diaspora africaine donc avec le reste donc des investisseurs à travers l'Afrique. Alors, Moustapha El Bouri, quel rôle les think tanks et cabinets de conseil peuvent-ils jouer dans la construction d'une vision stratégique africaine? Parce que je pense qu'on en a besoin quand même.
Oui, exactement, Omar. Pour un peu compléter ce que disait donc Kamel, c'est vrai que bon, il y a les think tanks et les cabinets de conseil. Souvent, ça peut être deux entités séparées, ça peut être aussi une même entité, comme celle de Kamel. Ces entités-là, elles ont vraiment un rôle clé. C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, elles permettent déjà, je pense, de sortir de la gestion du quotidien pour un gouvernement et pour un État, et surtout d'avoir une réflexion sur le long terme. Si on regarde un peu les think tanks vraiment existants, comme Hawk Institute ou d'autres qui existent sur le continent, ils permettent vraiment d'identifier les tendances de fond, c'est très important de poser des cadres aussi pour anticiper les enjeux qui sont à venir, que ce soit sur l'économie, sur le climat ou encore sur la gouvernance. Et surtout, il permet de transformer une vision. Bon, les États souvent ont des visions, mais il faut transformer ces visions en stratégie opérationnelle. Voilà, il faut l'opérationnel. Donc, ils accompagnent vraiment les décideurs, ça peut être à très haut niveau, ça peut être même les présidents, à structurer, à prioriser et surtout à mettre en œuvre leur plan d'action. Et je dirais ce qui est vraiment crucial, c'est que cette expertise, comme vous l'avez noté, Omar, et comme l'a précisé Kamel, il faut qu'elle vienne du continent lui-même. Parce qu'une stratégie africaine ne peut pas être pensée, comme on dit, à Paris-Washington. Hein. Elle doit être construite par des acteurs qui comprennent le terrain, les dynamiques locales, les réalités sociales et culturelles. Et pensée par soi-même. C'est un acte de souveraineté, déjà.
Un acte de souveraineté. Justement, vous parlez de souveraineté. Et actuellement, il faut dire que c'est le concept à la mode. Hein. Tous les États parlent de souveraineté économique et dans bien d'autres domaines, bien évidemment. Alors, Kamal Akridis, je rappelle que vous êtes le fondateur et président du ROC Institute, hein, Research Observation and Critical Knowledge donc, Institute. Alors, comment, donc, de façon concrète, ces think tanks, aujourd'hui, disons, africains, arrivent ou parviennent-ils, essaient-ils de parvenir à influencer les politiques publiques qui sont en cours de déploiement ou peut-être de préparation?
Alors, merci pour cette question. Je veux bien préciser que influencer au sens stratégique, ce n'est pas manipuler, c'est maîtriser les conditions dans lesquelles une décision est prise. Donc, les think tanks peuvent agir de façon structurée à trois niveaux. On a la production intelligence décisionnelle, on a la formation des élus publics et politiques, et on a l'interface entre la société civile et les décideurs. Donc, le premier point, on a parlé de production d'intelligence décisionnelle, c'est à travers la veille stratégique, les cartographies d'acteurs, l'analyse de rapports de force, et bien aussi les matrices de risque. Le deuxième point, c'était la formation des élites publiques et politiques, car un État souverain, c'est un État qui s'appuie sur une élite compétente et stratégiquement formée. Donc, voilà. Le dernier point, c'était l'interface entre la société civile, les décideurs et les acteurs internationaux. Donc, nous sommes ce qu'on appelle des architectes d'influence, en créant des ponts, en structurant des débats, et on oriente la décision à partir de données fiables, et ce qu'on appelle, on est data driving. Donc, on ne se base pas sur l'opinion, mais on se base vraiment sur l'information, sur les données.
Les données donc existantes. Alors, Mustapha El Bouri, en quoi la production autonome de savoir stratégique constitue aujourd'hui ou représente un levier de souveraineté pour les États et les institutions africaines?
En fait, c'est vraiment un levier, je dirais même que ce levier est fondamental. Parce que bon, on en a parlé donc durant les discussions, les échanges avec Kamal, mais tant qu'un État dépend des analyses ou dépend des modèles qui sont produits ailleurs, il est toujours en ce qu'on appelle en position de suiveur. Donc il réagit, mais en fait il ne décide pas, il n'y a pas de décisions qui sont prises réellement, donc il suit. Donc produire, je dirais, son propre savoir stratégique, il faut décider par soi-même de ce qui est prioritaire, de ce qui a de la valeur et de la manière de répondre aussi aux défis locaux, parce qu'il y en a, il y a toujours des défis locaux. Donc il faut pouvoir s'appuyer sur des données fiables, des données qui sont issues du terrain et non pas juste des données qui sont statistiques, mais issues du terrain, pour pouvoir prendre, je dirais, des décisions qui sont un tant soit peu éclairées, sans être, encore une fois, sans être sous influence ou sans être biaisé par des logiques qui sont extérieures. Et ça va un peu plus loin, je dirais. Ça permet aussi de former, comme a dit Kamal, des élites, c'est très très important. Ça permet de nourrir le débat public et orienter surtout les politiques publiques, je dirais, pour prendre un sens un peu figuré, avec une boussole qui est réellement africaine. Donc c'est ça la souveraineté, Omar, la stratégique, c'est être maître de sa pensée, maître de ses choix et maître surtout de son avenir.
En tout cas, mais une dernière question me vient à l'esprit et je l'adresse à Kamal Akridis. Pensez-vous qu'aujourd'hui, en termes de ressources humaines, en termes de compétences, les pays africains disposent de ce qu'il faut pour avoir leur propre think tank?
Bien sûr, et je suis plus que sûr de ça parce que vraiment aujourd'hui, on doit vraiment changer l'image. Le monde pense de l'Afrique, c'est qu'on est un continent où on a toujours besoin de l'aide, on a toujours besoin de support. Malheureusement et heureusement pour nous, c'est pas comme ça. L'Afrique est en train de construire des leaders, en train de construire vraiment des leaders partout dans le monde. Et du coup, je pense qu'on a vraiment les ressources, on a vraiment les moyens, on a vraiment les compétences. Et la preuve, c'est que il y a beaucoup de dirigeants africains qui dirigent des think tanks, qui dirigent des boîtes, des multinationales et tout ça au niveau international. Et ça, c'est une preuve que les Africains aujourd'hui ils sont capables de prendre la bonne décision. C'est pas juste prendre une décision, mais prendre la bonne décision pour le continent.
Prendre la bonne décision pour eux-mêmes. Merci à vous, Kamal Akridis. Je rappelle que vous êtes fondateur et président du ROC Institute, le Recherche, Observation and Critical Knowledge, un think tank basé à Paris, mais avec une présence active sur le continent africain. Merci également à Mustapha El Bouri, qui nous accompagne donc, comme chaque semaine, dans cette rubrique. Mustapha El Bouri, patron et directeur, donc général de Best Afrique, une plateforme qui réunit les investisseurs de la diaspora africaine. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et au plaisir de vous retrouver très bientôt dans Coémergence.
Merci Omar.
Merci.
À très bientôt.
Coémergence, l'invité.
Nous avons le plaisir également de retrouver Idriss Lindje, directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres la plateforme, l'agence Ecofin, spécialisée sur donc l'information financière et économique en Afrique. Alors, avec Idriss Lindje, nous allons parler d'un sujet qui fait l'actualité. Il s'agit de la Banque africaine de développement, qui se cherche un nouveau président. Pourquoi? Parce que après les deux mandats donc de son actuel président, le Nigérian Akinwumi Adesina, il faut lui trouver un remplaçant. L'élection a lieu cette semaine donc à Abidjan à l'occasion des assemblées générales de la BAD. Qui sont les candidats et leurs chances de remplacer le Nigérian donc Akinwumi Adesina? Et surtout, quel est le bilan de ce dernier? Nous parlons de tout ça avec vous, Idriss Lindje. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Alors, Idriss Lindje, tout d'abord, une première question. Quel bilan ou quelle réalisation phare peut-on donc mettre sur le crédit de Akinwumi Adesina après ses deux mandats à la tête de la Banque africaine de développement?
Disons que lorsque Alessina prend la tête de la Banque africaine de développement en 2015, l'institution est déjà connue. Mais il est quand même important de remarquer qu'il a profondément, ou alors sa présidence a connu une transformation véritable de la BAD en moteur de développement africain. Déjà, il faut noter qu'il a augmenté les capacités d'intervention de l'institution. En 2015, on était sur un capital social autorisé de 93 milliards de dollars. Et récemment, je pense en 2024, ce capital autorisé est passé à 318 milliards de dollars et de nombreux actionnaires, notamment la France par exemple, ont suivi le mouvement, même si avec un actionnaire comme les États-Unis, on est un peu moins certain. Donc, la BAD s'est aussi concentrée sur des solutions concrètes, comme par exemple mettre en place des projets qui visent à connecter 300 millions de personnes supplémentaires à l'électricité, mettre en place une plateforme qui permet d'investir sur les infrastructures, ce qu'on connaît aujourd'hui sous l'appellation d'Africa 50. Et la BAD s'est mise en objectif de, comment dire, de tripler sa capacité d'intervention, de développer des infrastructures africaines. Je ne parle pas des corridors routiers qui rejoignent aujourd'hui, par exemple, Lagos au Nigeria, à Brazzaville en RDC, en passant par le Cameroun. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu une vraie transformation de la Banque africaine de développement durant les 10 années d'Akin Wumi Adesina.
Mais cela dit, après Akin Wumi Adesina, on voit qu'il y a pas mal de candidats. Alors présentez-nous surtout ces candidats et leurs chances de succéder aux Nigérians après ces deux mandats durant cette décennie.
C'est pas forcément des personnes très connues du grand public autant que l'est aujourd'hui Adesina, par exemple. Nous avons déjà Amadou Roth, c'est un ancien ministre sénégalais de l'économie. Bon, on le trouve proche d'Adesina. Donc, pour les membres du conseil d'administration qui auront besoin de continuité, on voit un peu en Roth une personne qui peut représenter cette continuité du Nigérian qui est en train de partir. Et Adesina, de ce qu'on a entendu, il mise sur une banque africaine de développement plus agile avec un processus de modernisation et surtout un soutien très fort au secteur privé africain. Sa vision semble être d'impacter à travers l'innovation, les partenariats. Il est soutenu par un certain nombre de pays. Le deuxième candidat, Sidi Ouattara, il est mauritanien. Il est plutôt un adepte de ce qu'on appelle la diplomatie discrète. Hein. Vous savez, Adesina, c'était un peu le super-héros africain. On l'a vu hein, lors du Covid, et même son audace a permis que la BAD atteigne des niveaux où elle émet des produits financiers extrêmement complexes comme des bonds perpétuels hybrides. Ça, c'est des produits d'Adesina. Alors, Sidi Ouattara, s'il est élu, on aura une diplomatie économique plus discrète. C'est un ancien ministre de la Mauritanie. De ce qu'il a déclaré, il semble vouloir une BAD qui renforce la résilience climatique et qui adopte la diversification économique. Je crois qu'on n'est pas très loin de ce qu'a dit Amadou Ott, parce qu'effectivement, diversifier l'économie en Afrique, c'est surtout permettre que plusieurs acteurs en dehors de ceux étatiques puissent faire le travail. Alors, le troisième candidat, c'est Munzele Maimbo. Il est zambien. Il est, voilà, il occupe de hautes fonctions, je pense, à la Banque mondiale. Ce n'est pas sûr, mais je crois que c'est ça. C'est un technocrate, hein, c'est un technicien. Sa vision, de ce qu'on a vu, hein, de ses interventions, souvent, il est plus partant pour la discipline financière et les investissements stratégiques. Et puis, voilà. Il y a aussi Mahamat Abbas-Toulis. Il est de nationalité tchadienne. C'est un ancien gouverneur de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, mais aussi de la Banque des États de l'Afrique centrale. Il est extrêmement sensible aux questions d'énergie verte et surtout à l'inclusion financière. Bon, c'est quelque chose qui sera intéressant de voir. Et enfin, nous avons Badia Boulile Swazi Tshabalala. C'est une Sud-Africaine qui a une vision d'une BAD, elle aussi assez inclusive, avec une priorité qui serait, ou alors un focus qui serait de prendre en compte les aspects du genre des femmes et les personnes défavorisées. Donc voilà, voilà un peu nos cinq candidats. Et évidemment, les discussions vont être très serrées lors des réunions d'Abidjan.
Alors, Idriss Lindier, enfin, parlons des perspectives qui se dégagent dans ce contexte pour la Banque africaine de développement. Quelles sont les perspectives de la BAD?
Alors, Adesina a fait beaucoup de choses. Il a obtenu beaucoup de succès, gagné beaucoup de batailles, mais la guerre pour le développement en Afrique continue. Et je pense que une bataille constante, hein, reste celle de la lutte contre la pauvreté. Le nombre de personnes sorties de la pauvreté a reculé, mais le pourcentage des pauvres continue d'être important. On parle encore de 698, près de 700 millions d'Africains qui vivent dans des zones rurales, dans une précarité et dans des risques énormes. Et justement, un de ces risques, c'est la résilience climatique. L'Afrique continue d'être celle qui émet le moins à cause d'une faible industrialisation. Elle émet moins de gaz à effet de serre, mais elle subit les conséquences d'une façon parfois dramatique. On a vu des inondations, que ce soit en RDC, que ce soit au Nigeria, avec des impacts économiques importants. La diversification économique, ah, ça c'est très important, aussi bien la diversification des partenaires que la diversification interne. C'est-à-dire l'Afrique doit pouvoir redessiner la carte de ses partenariats économiques, mais elle doit aussi donner très rapidement la force à la construction de son marché unique. La Banque africaine de développement peut aider à ce propos. Et il y a enfin des défis géopolitiques. On voit très bien comment l'arrivée du président Donald Trump et de ses nouvelles décisions ont changé la manière dont les relations mondiales se déroulent avec des étrangers, c'est-à-dire des non-Africains, qui ont 40% du capital de la BAD. C'est quelque chose sur laquelle il faudra travailler afin de pouvoir faire en sorte que le développement de l'Afrique passe aussi un peu par les Africains eux-mêmes. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur les défis futurs.
Merci à vous, Idriss Lindier, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur des rédactions de Media Mania, qui édite entre autres la plateforme de l'agence panafricaine Ecofin, spécialisée donc dans l'information financière et économique en Afrique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.